France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Le chikungunya casse-tête pour le don du sang. Les tests se multiplient pour détecter le virus alors que la maladie progresse en France. Explication à suivre. Clermont-Ferrand et des moyens supplémentaires pour lutter contre le trafic de drogue. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, sur place ce matin, nous y sommes. La chute du gouvernement lundi pourrait-elle fragiliser cette lutte contre le narcotrafic? Je poserai la question à la députée insoumise de Clermont, Marianne Maximi. À suivre encore. Bonjour Anne-Laure Barral.
Bonjour.
Des banques françaises convoquées lundi devant la justice.
Et c'est le Crédit Agricole qui ouvre le bal pour une audience en vue d'une convention judiciaire d'intérêt public dans l'affaire des Koum-Koum.
Et vous nous expliquerez tout cela dans un instant. Vladimir Poutine, le président russe, qui prévient au lendemain du sommet des volontaires de Paris, ses troupes n'hésiteront pas à ouvrir le feu sur les Occidentaux s'il déploie des troupes au sol. Nous serons en Russie. Le thon à la cantine, retiré dans 8 communes. Est-ce vraiment mauvais pour notre santé? Le youtubeur star des jeunes, Michou, au cinéma. Nous verrons pourquoi. Et puis un transfert record pour la meilleure joueuse de foot française, Grace Gueyoro, de Paris à Londres. À partir de 13h30, l'ambassadeur français pour les océans et les pôles, Olivier Poivre d'Arvor, est notre invité. 3 mois après la fin du sommet de Nice, il se bat pour que le traité sur la haute mer soit adopté aux Nations Unies. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h50, c'est la France. On reste en mer. Faut-il filmer les marins pendant les courses? Ce sera avec Virginie Troussier. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. L'humoriste Édouard Deloignon demande The Libertines de Peter D.
Je me disais, c'est un modèle, je trouve ses fringues stylées, je trouve son mode de vie stylé, alors que bon, se mettre des cuites et prendre de la drogue, c'est vraiment pas stylé en vrai. Mais quand t'as 19-20 ans, tu te dis, bah, en fait, c'est ça qui est stylé.
Ce sera avec Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
Inter.
Les cas de maladies transmises par les moustiques ont atteint des records cet été en Europe. Tout spécialement donc le chikungunya, avec plus de 300 contaminations autochtones, c'est-à-dire en France, donc pas des cas importés de l'étranger. De nouvelles régions, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine et Bourgogne-Franche-Comté, sont désormais concernées en métropole et cela complique le don du sang. Bonjour Faustine Calmel.
Bonjour.
Les centres qui les recueillent doivent prendre leurs précautions.
Aujourd'hui, si vous donnez votre sang, l'entretien avec le médecin sera un peu plus long. Il ou elle vous fera consulter une liste de communes où des cas de chikungunya ont été recensés. Si vous y avez dormi au moins une nuit ces 4 dernières semaines, alors votre poche de sang sera systématiquement testée. Cyrie Laperche est la directrice médicale de l'établissement français du sang.
Si on prend un candidat au don qui aurait été exposé potentiellement au virus hein, dans une région géographique donnée et pendant une période à risque, et qu'on le teste et qu'il est négatif, on peut effectivement conserver les produits sanguins qui sont issus de ce don. C'est une sorte, on va dire, d'équilibre entre la nécessité, encore une fois, de disposer de produits sanguins et puis le potentiel risque transfusionnel.
Car au début de la survenue des cas de chikungunya en métropole, on vous demandait de revenir 28 jours plus tard. Mais face à la multiplication des zones concernées, la doctrine a donc évolué. À terme, les donneurs de sang pourraient aussi devenir des sortes de vigies avec des tests effectués encore plus tôt, Cyrie Laperche.
Le changement de doctrine pour les saisons futures, ce serait de mise en place un petit peu par anticipation pour peut-être faire en sorte que la population des donneurs de sang puisse être une population sentinelle d'une surveillance d'une circulation virale sur le territoire métropolitain.
Un élément de plus pour faire face à une situation totalement imprévisible et inédite en métropole.
Information signée Faustine Calmel. Voilà une autre information et qui prend tout son sens à l'heure où le gouvernement cherche de l'argent pour réduire les déficits. L'État s'intéresse aux banques, pas uniquement l'État. La justice aussi. Anne-Laure Barral, cellule investigation de Radio France. Vous êtes avec nous et vous nous apprenez, Anne-Laure, que le Crédit Agricole est convoqué lundi au tribunal judiciaire de Paris pour une affaire de fraude fiscale. Selon vos informations, il s'agit de l'affaire dites des Koum-Koum, de quoi s'agit-il?
Eh ben Jérôme, vous avez fait latin, vous savez que Koum, ça veut dire avec. Uh-huh. C'est... La traduction, ce serait plutôt gagnant-gagnant, parce que c'est surtout un jeu de passe-passe où tout le monde gagne, sauf le fisc. En fait, il s'agit de faire changer de main des actifs financiers juste avant le versement des dividendes pour mieux les faire revenir ensuite au même propriétaire. Comme ça, certains actionnaires étrangers ne payent pas de taxes à l'État français, ils récupèrent donc plus d'argent et au passage, la banque leur prend une commission. Depuis les révélations en 2018 d'un consortium de journalistes journalistes européens avec nos confrères du Monde sur le sujet, le législateur a tenté plusieurs fois de mettre fin à ces montages financiers que beaucoup qualifient de frauduleux.
Est-ce qu'ils le sont frauduleux ?
Eh bien, la Fédération bancaire française explique que non, qu'il s'agit de procédures tout à fait légales qui visent à financer l'économie réelle et pas à contourner le fisc, ce qui serait un abus de droit. Il faut dire que 5 autres banques françaises, dont la Société Générale et BNP Paribas, sont aussi sous le coup de cette enquête pénale. Sauf qu'on a du mal à comprendre pourquoi il y a ces pics de transactions juste avant les versements des dividendes. Le Crédit Agricole est donc le premier établissement bancaire à être convoqué devant la justice pour ce sujet, pour ce qu'on appelle une convention judiciaire d'intérêt public, c'est-à-dire une sorte de transaction avec l'État qui éviterait un lourd procès. Le Crédit Agricole est aussi une des rares banques à avoir accepté un accord avec le fisc de 35 millions d'euros dans le cadre d'autres procédures, cette fois de redressement fiscal sur le sujet des Koum-Koum.
Merci Anne-Laure Barral pour ces informations. Quelle sera l'ampleur du mouvement du 10 septembre, le mouvement Bloquons tout mercredi prochain? Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, dit ce matin qu'il ne croit pas à des mouvements d'ampleur, mais il estime qu'il pourrait y avoir, je cite, des actions spectaculaires. Tout cela alors que François Bayrou n'en finit pas de prolonger sa tournée d'adieu. Le Premier ministre poursuit ses consultations avec les oppositions et enchaîne les interviews. Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
Et petit à petit, il admet qu'il va quitter Matignon la semaine prochaine.
Oui, François Bayrou commence à craquer après avoir écumé tout ce que Paris compte de plateau télé pour tenter de convaincre les Français à défaut des forces politiques. Il concède ce matin sur RTL qu'il est prêt à se sacrifier pour alerter sur la dette et il admet se préparer à la gestion des affaires courantes. Le temps qu'Emmanuel Macron lui trouve un successeur, je remplirai ma mission, dit-il, avec la volonté de préserver les choses. Jusqu'ici, le Premier ministre faisait mine de croire qu'il y avait encore un chemin à l'Assemblée contre l'évidence. C'est du mauvais théâtre de boulevard, griffait hier un député du Bloc central. Mais ce matin, pour la première fois, François Bayrou se projette dans l'après-Bayrou, qui, pour lui succéder, c'est extrêmement difficile, dit-il. Si j'en connaissais le nom, je me garderais de vous le dire. Mais il doute qu'une nomination puisse intervenir dès le lendemain de sa chute. Il a écarté ce matin deux scénarios, celui de pouvoir être renommé à Matignon après avoir été renversé et celui de la démission d'Emmanuel Macron.
D'ici là, Marie, qu'est-ce qui peut se passer ? Est-ce que François Bayrou peut toujours prendre des décisions ? Il dit que non. Ça concerne notamment les franchises médicales.
Oui, signera-t-il des décrets en dernière minute avant lundi pour faire passer ce qui peut l'être avant sa chute ? Ouais. Non, je ne ferai pas les choses de manière dissimulée et abrupte, a-t-il répondu ce matin. Réponse ambiguë. Dans son entourage, on confirme que le Premier ministre ne veut pas passer en force ou mettre en difficulté un éventuel successeur à Matignon, mais on refuse de répondre de façon claire si oui ou non le décret sur le doublement des franchises médicales sera publié d'ici lundi. En revanche, le décret sur la programmation pluriannuelle de l'énergie que le gouvernement voulait faire passer ce week-end, lui, ne sera pas publié, confirme un proche du Premier ministre.
Merci Marie Mollet. Les travaux de l'autoroute A69 devraient être terminés dans un an, souhait du ministre des Transports. Philippe Tabarot, présent ce matin sur place dans le Tarn, le chantier revient à plein régime, dit-il, alors qu'une échéance judiciaire importante se profile, saisie par les opposants. La cour administrative d'appel de Toulouse doit examiner ce projet sur le fond, ce sera fin novembre.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
En peu de mots, ce matin, Vladimir Poutine a réduit à néant la perspective de discussion autour d'un cessez-le-feu avec l'Ukraine. Hier à Paris, 26 pays, on vous en a parlé, se disaient prêts à garantir la sécurité de l'Ukraine en cas de paix, y compris pour certains en envoyant des troupes sur place. Eh bien, le président russe en déplacement à Vladivostok, l'extrême est de son pays, les a clairement menacés dans son discours. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Jérôme.
Correspondant de France Inter à Moscou, Sylvain, Vladimir Poutine se montre plus inflexible que jamais.
Oui, clairement, à Vladivostok, où il était pour le Forum économique oriental, Vladimir Poutine a écarté en deux phrases tout espoir de règlement pacifique de la guerre en Ukraine à court moyen terme, en posant des conditions dont il sait pertinemment qu'elles sont inacceptables pour Kiev. Tout d'abord, il ne veut pas entendre parler de forces étrangères en Ukraine dans le cadre des garanties de sécurité. Ce n'est pas la première fois qu'on prononce ces mots au Kremlin, mais le timing, leur brutalité aussi, les rend d'autant plus définitifs.
En ce qui concerne d'éventuels contingents militaires en Ukraine, si des troupes y apparaissent, surtout maintenant, pendant les hostilités, nous partons du principe qu'elles constitueront des cibles légitimes à détruire.
La logique du président russe, c'est qu'on ne peut pas accorder de garantie à l'Ukraine sans en accorder à la Russie. Et pour lui, la présence de troupes occidentales en Ukraine est une menace. Quand bien même serait-elle là pour garantir un accord de paix, je n'en vois pas l'utilité, a dit Vladimir Poutine. Et puis, le chef du Kremlin a aussi de fait écarté tout espoir de rencontre avec Volodymyr Zelensky en répétant qu'il voulait bien le voir, mais seulement s'il vient à Moscou, une exigence qu'il sait inacceptable pour le président ukrainien. Quand bien même, assure le chef du Kremlin, sa sécurité sera garantie à 100%.
Sylvain Tronchet en direct de Russie pour Inter. Pas de perspective de paix non plus. À Gaza, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé vouloir s'emparer de la totalité de l'agglomération. C'est selon lui le dernier bastion du Hamas. Et l'armée israélienne a annoncé il y a quelques minutes qu'elle allait cibler des tours d'immeubles dans la ville de Gaza dans les jours à venir. Le Hamas, justement, lui, réplique ce matin avec l'arme des images. Bonjour Michel Paul.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Jérusalem. Michel, le mouvement islamiste diffuse une vidéo ce matin de deux otages israéliens enlevés le 7 octobre.
Oui, c'est donc une vidéo de 3 minutes et demie publiée par le Hamas. On y voit deux otages, Alon Ohel, dont c'est le premier signe de vie depuis le 7 octobre 2023, et Guy Gilboa Dalal. Ce dernier se trouve dans une voiture qui se déplace au milieu de ruines. Il dit que la vidéo a été tournée le 28 août dernier et affirme se trouver à Gaza, à Gazaville. À ses dires, 8 autres otages s'y trouvent également et il s'adresse directement au Premier ministre israélien Netanyahou en lui demandant de ne pas mener l'offensive militaire israélienne à Gazaville approuvée par le gouvernement israélien. Alors en Israël, on parle de terrorisme psychologique. On affirme qu'il s'agit clairement d'une tentative de faire monter la pression à la veille d'un nouveau rassemblement de masse à l'appel des familles d'otages pour marquer leur 700e jour de captivité. Tout cela au moment où le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, proclame qu'Israël a ouvert le cadenas des portes de l'enfer dans la ville de Gaza.
Michel Paul, correspondant de RFI à Jérusalem. L'Ukraine, Gaza, deux conflits que Donald Trump s'était promis d'éteindre, se présentant comme l'homme de la paix. Le président américain, la nuit dernière, a renommé le ministère de la Défense américain en ministère de la guerre. Comment l'analyser ? C'est un pur affichage pour la politologue spécialiste des États-Unis, Nicole Bacharan.
C'est un affichage très agressif. Donald Trump a une conception très militarisée de la puissance. On le voit qui multiplie la présence de l'armée dans les grandes villes américaines, ce qui est complètement contraire à la tradition et bien souvent à la Constitution. Et vis-à-vis du monde extérieur, il veut afficher une armée américaine extrêmement forte, mais qu'on peut imaginer davantage comme une force de dissuasion, montrer qu'on est tellement fort que personne n'osera nous attaquer. Et puis, il y a certainement pour Donald Trump la tentation permanente de montrer qu'il est un autocrate parmi les autocrates, très vexé de ne pas avoir été au sommet de Shanghai.
Nicole Bacharan au téléphone d'Étienne Monin, alors que Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, assure à l'instant que des milliers de militaires occidentaux pourraient être déployés dans son pays. À Lisbonne, on connaîtra dans la journée les premiers résultats de l'enquête autour du déraillement du funiculaire mercredi soir. 16 morts, dont plusieurs étrangers et notamment une Française. Le ministère français des Affaires étrangères l'a annoncé ce matin. Donc une Française a trouvé la mort dans ce déraillement et une autre Française est toujours blessée. On en vient à l'actualité de la matinée à Clermont-Ferrand avec la visite du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, dans cette ville où les points de deal ont fleuri depuis quelques mois, où les règlements de compte se sont multipliés, aussi 4 depuis le début de l'année et où on a entendu des habitants tout à la fois terrorisé et excédé. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui a pris cet engagement.
Nous sommes sur un lieu spécifique où un point de deal a été supprimé. Il y avait 6 points de deal ici, dans cette ville de Clermont-Ferrand. Il en reste 5 et nous les démantèlerons. Le démantèlement de ce point de deal a entraîné en réalité une guerre territoriale. C'est ce qui explique les homicides qui ont eu lieu, notamment après des règlements de compte, depuis plusieurs mois. Le point de deal ne se réinstallera pas. Les choses doivent être claires et on prendra les choses de façon méthodique. Mais je pense que cette guerre, sans doute qu'elle sera longue, mais nous allons la gagner.
L'engagement de Bruno Retailleau ce matin devant les Clermontois, vous l'avez suivi dans les rues de la ville. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Vous êtes sur place. Quel est le plan du ministre et des autorités pour réduire ces trafics ?
Alors, en tout cas, le ministre l'a annoncé également aux commerçants qui étaient ce matin présents près de l'ancien donc point de deal et il a affirmé que le principal point de vente ne se reconstituera pas effectivement et il annonce des renforts, une unité de force mobile permanente tant qu'il le faudra et 22 policiers au total dont 5 enquêteurs stup qui devraient arriver bientôt.
Donc des renforts, est-ce qu'on en sait plus sur l'organisation même du trafic Emmanuel et notamment sur les commanditaires ?
Alors justement, c'est ce qui manque. Il y a eu plusieurs interpellations ces derniers mois de suspects, potentiellement des exécutants, mais il manque les commanditaires qui se trouveraient à Dubaï ou au Maghreb, comme dans d'autres dossiers stup, mais aussi de possibles interactions régionales, hein, milieu lyonnais, albanais, et potentiellement également la DZ Mafia, ce que n'exclut pas non plus le nouveau procureur de Clermont-Ferrand, Éric Serfas.
C'est difficile de dire que la place de Clermont-Ferrand va être prise par des Lyonnais ou par des Marseillais, en ce sens qu'il n'y a pas de milieu lyonnais qui est autonome, ni de milieu marseillais qui est autonome. Donc je pense que c'est des interactions qui s'intéressent à tous les marchés possibles. Mais c'est un marché, lorsqu'il est déstabilisé par des opérations judiciaires qui ont eu lieu en 2025, qui est un marché qui est à prendre par des organisations criminelles qui sont en concurrence avec d'autres.
Éric Serfas, qui n'est autre que l'ancien chef de la Junalco, la juridiction nationale de lutte contre le crime organisé. Et il espère beaucoup, ici à Clermont-Ferrand, des renforts en enquêteurs annoncés par le ministre de l'Intérieur.
Merci Emmanuel Leclerc, en direct de Clermont-Ferrand. Nous sommes en ligne avec Marianne Maximi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la députée insoumise de cette circonscription du Puy-de-Dôme. La réponse de Bruno Retailleau ce matin sur place est-elle à la hauteur selon vous ?
La question, ce n'est pas la hauteur. Ma question à moi, c'est est-ce qu'on est capable de faire le bilan depuis plusieurs décennies de la politique qui est menée en France en termes à la fois de répression et aussi de prévention ? Et je crois, malheureusement, nous en sommes incapables. Là, ce sont des renforts qui sont annoncés. Ça fait déjà quelques mois qu'on a eu des renforts. Et nous, ce que nous voyons à Clermont-Ferrand, notamment sur ma circonscription, là où s'est rendu M. Retailleau, c'est une augmentation et encore plus de violence.
Il ne faut pas de renforts
C'est pas la question qu'il faut. Est-ce qu'il faut.
C'est un peu la question quand même.
Bien sûr qu'il en faut. Nous, on n'a pas de problème à voir arriver des forces de police, mais. Qu'est-ce qui fait que dans notre pays aujourd'hui, nous consommons de plus en plus de substances, alors que dans d'autres pays européens, la consommation a diminué et donc la violence des trafiquants a diminué aussi.
700 clients par jour sur certains points de deal à Clermont-Ferrand.
Et le véritable problème, il est là. Moi, j'entends aucune annonce sur la prévention, sur le fait de faire de l'accompagnement, sur le fait de se poser la question pourquoi aujourd'hui il y a autant de gens qui consomment de tout milieu social d'ailleurs, hein, je tiens à le dire, et de tout âge. Et vous savez. On a un problème français, c'est qu'on est incapable de regarder ça parce qu'on a un débat qui est instrumentalisé aujourd'hui par un ministre de droite qui veut faire du tout répressif la seule solution. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas. On nous dit aujourd'hui, c'est parce que c'est déstabilisé qu'il y a de la violence. Et on nous dit, ah bah, c'était à Marseille, c'était pareil il y a quelques années. Mais en fait, les trafics se déplacent. Là où la police arrive, ils vont plus loin, ils vont dans d'autres villes, des villes
donc
moyennes.
Donc il faut cibler les consommateurs, Marianne Maximi. Vous nous dites que le problème, c'est la consommation.
Non, le problème, c'est qu'il faut faire de la prévention. Et en fait, la répression, notamment des consommateurs, éloigne les gens du soin. Et ça, c'est une donnée, par exemple, au Portugal, ils ont choisi de changer complètement de logique et de faire en sorte que les gens soient perçus comme des gens qui ont besoin d'être accompagnés, d'avoir un accès aux soins plutôt qu'une condamnation. Et ça fait réduire la consommation, donc les trafics. Donc, et ça, c'est un angle mort de la pensée de Bruno Retailleau, mais aussi de ses prédécesseurs.
Est-ce qu'il faut donner davantage de moyens tout de même aux enquêteurs ?
Mais il faut des enquêteurs, notamment sur de la police judiciaire, sur de l'investigation au niveau international aussi. Ce sont des réseaux internationaux. Il y a des questions de blanchiment d'argent. Donc effectivement qu'il faut aller chercher les têtes de réseau. Parce que là, on vit de la mer à la petite cuillère.
Le maire de Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi, envisageait davantage de couvre-feu pour les moins de 16 ans. Est-ce que c'est une mesure qui peut être efficace selon vous ?
C'est une punition collective vis-à-vis des jeunes qui serait, à mon avis, inacceptable parce que tous les mineurs dans cette ville ne sont pas des délinquants. Et donc, je pense que c'est l'aveu d'un échec en termes de prévention. Moi, je voudrais parler quand même, on a des établissements scolaires juste à côté de ce gros point de deal là où était M. Retailleau. Il n'y a pas de prévention qui est faite dans les établissements scolaires des collèges et des lycées alors que ce sont là où recrutent. Les dealers, et là où ils les recrutent aussi pour la consommation. Il n'y a pas de politique qui est faite par rapport à ces jeunes. Alors on peut punir collectivement tous les jeunes de moins de 16 ans, mais Peut-être pouvons-nous les éduquer, les prévenir des dangers d'un point de deal, du recrutement, que ce n'est pas la belle vie, en fait, d'être sur un point de deal.
Il y a plusieurs villes, hein, Marianne Maximi, qui sont touchées par, par ces règlements de compte, ce narcotrafic, Clermont-Ferrand, mais pas uniquement. Dans ce contexte, est-ce qu'il ne faut pas garder un gouvernement stable, et notamment un ministre de l'Intérieur en place? Est-ce que ça peut faire partie de la réflexion lundi, au moment du vote de confiance au Premier ministre François Bayrou?
Absolument pas, parce qu'on peut parler de la question du trafic ou toutes les autres questions de politique qu'a géré ce gouvernement, c'est un échec total. Et donc moi je suis justement pour se saisir de ce vote de confiance pour lequel je voterai contre, pour changer complètement de façon de faire de la politique. Et notamment, je rappellerai quand même que en 2024, en juillet 2024, les Français et les Françaises se sont prononcés pour une toute autre politique.
Merci Marianne Maximi, députée insoumise du Puy-de-Dôme, invitée de ce 13-14. 13h20, c'est l'heure du repas dans les cantines. Je ne connais pas le menu exact de toutes les cantines de France, mais je peux vous dire qu'à Paris, à Lyon ou encore à Lille, au total dans 8 villes de France, les enfants ne mangent pas ou ne mangent plus de thon en boîte. Décision annoncée la semaine dernière en raison, disent ces villes, de la contamination au mercure de ce poisson. Nous en avons parlé la semaine dernière avec vous d'ailleurs. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Mais depuis cette annonce, eh bien, il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de réactions. Alors celle du ministère de l'Agriculture, par exemple, aucune défaillance sanitaire n'a été identifié, nous dit le ministère, mais on peut quand même se demander s'il faut arrêter de manger du thon en conserve à cause du risque. Sandy, que recommandent les autorités sanitaires?
Eh bien, parce qu'il est en haut de la chaîne alimentaire dans l'océan, le thon est plus contaminé au méthylmercure, la forme chimique du mercure, qu'une sardine ou qu'un maquereau. Mais ce n'est pas le seul. L'ANSES recommande aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 3 ans de limiter la consommation de poissons prédateurs sauvages comme le thon, la bonite, la raie, la dorade ou le loup. Mais pas question d'interdire à toute la population de manger du thon en conserve, explique Irène Margariti, chef de l'évaluation sur la nutrition et les risques nutritionnels à l'ANSES.
Une interdiction concerne en général un produit ou un ingrédient qui a de très faibles doses et très rapidement toxique. On ne peut pas dire que ce soit le cas du thon. Le sujet, c'est la quantité globale, c'est-à-dire c'est la quantité qu'un individu va consommer sur sa semaine, sur le mois, en considérant toutes les autres sources de contamination. Donc le thon est contaminé, mais les autres poissons le sont aussi.
Pour évaluer le risque, l'ANSES regarde le taux d'exposition global de la population, à la fois les taux de concentration dans les aliments comme le poisson, mais aussi la façon dont on mange, la quantité, la fréquence des plats. La valeur maximale toxicologique de référence actuelle, 0,3 microgrammes par kilo corporel par jour, et peu dépassé, explique Irène Margariti de l'ANSES.
Sur les études dont on dispose, qui ont maintenant quelques années, les conclusions nous disent qu'il y a globalement 1% de la population qui dépasse. Et ceux qui dépassent sont, entre autres, des forts consommateurs de thon. Et quand je vous dis forts consommateurs, c'est jusqu'à 500 grammes de thon par semaine, ce qui est énorme.
Cette évaluation sur le méthylmercure date de 2010. Elle vient d'être réactualisée avec une valeur maximale toxicologique beaucoup plus restrictive. On attend les résultats dans les mois qui viennent.
Sandy Dauphin, les enfants, ce qu'ils mangent et ce qu'ils regardent, en l'occurrence les adolescents. L'un de leurs influenceurs préférés se nomme Michou. Plus de 10 millions d'abonnés sur YouTube avec des défis comme « J'ai testé des produits brésiliens » ou encore « J'ai participé à une course faite pour vos vomir », tout cela fait des millions de vues. Ses productions sont de plus en plus spectaculaires, à tel point que Michou va sortir en début de semaine prochaine une série à mi-chemin entre le blockbuster et le jeu vidéo, ça s'appelle Terminal. Bonjour Adrien Serrière.
Bonjour Jérôme.
Et cette série, ça c'est ce qui est intéressant, sort aujourd'hui en avant-première dans les salles de cinéma MK2.
Oui, des séances donc aujourd'hui et demain dans 500 salles pour découvrir en avant-première cette super production au concept qui rappelle un peu le phénomène sud-coréen Squid Game.
Les traqueurs n'ont qu'une seule mission. Vous cherchez, vous trouvez et vous éliminez.
Des traqueurs armés face à 8 binômes qui tentent de leur échapper, binômes composés de figures des réseaux sociaux, dont Michou lui-même. Les balles sont fictives, je vous rassure, mais le jeu est réel et ça se passe dans un aéroport privatisé pour le tournage. Michou était l'invité cette semaine de À la régulière sur Inter.
Ça fait peut-être 3 ans que j'ai ce truc en tête et je voulais envoyer la guerre, tu vois. C'est pour ça qu'on fait en série, en 4 épisodes, parce que je pouvais pas sortir une énorme vidéo comme ça, ça serait jamais remboursé. Là, même si je sais que j'arriverai pas à rembourser le projet sur l'investissement que j'ai fait, 4 épisodes, c'est plus réalisable.
Un projet XXL qui permet à Michou de faire l'événement en déplaçant YouTube dans les salles de cinéma.
Il y a quelques mois, un autre YouTuber, Inoxtag, avait fait de même avec son documentaire sur l'Everest. Ça avait cartonné. L'intérêt des salles, Adrien Serrière, c'est d'attirer les jeunes.
Et oui, les dernières études le montrent, les jeunes vont moins souvent au cinéma. C'était 6 à 7 fois par an avant Covid, aujourd'hui plutôt 4 fois par an. Il faut donc, pour Elisha Karmitz, le directeur général de MK2, leur redonner le goût de l'expérience de la salle.
C'est l'expérience collective en fait, c'est qu'on passe d'une expérience où on est quand même isolé et chez soi face à un écran à une expérience où on s'engage, on sort de chez soi, en communauté avec des amis, et puis on se rend compte qu'avec tous ces autres gens, on vit une émotion ensemble au même moment, et que c'est ça que ça change.
Et oui, plusieurs dizaines de milliers de spectateurs attendus, d'ores et déjà un succès, il faut donc s'attendre à voir ces partenariats entre YouTube et les cinémas devenir de plus en plus fréquents.
YouTube est-il l'avenir du cinéma ? Merci Adrien Serrière. Les enfants, ce qu'ils regardent donc et ce qu'ils écoutent avec cette nouvelle proposition de Radio France, une radio numérique qui sera lancée au mois d'octobre.
Salut, petites oreilles.
Il était une fois...
Mon petit France Inter.
Découvre Mon petit France Inter, la nouvelle radio rien que pour toi.
Mon petit France Inter avec des voix que vous allez reconnaître, notamment celle de Laure Grand Besançon. Vous y retrouverez rassemblés tous les programmes jeunesse des antennes de Radio France ainsi que la musique de nos programmateurs. Ce sera disponible pour les vacances de Toussaint. Le retour des Bleus du foot. Ce soir, le début des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 au Mexique, au Canada et aux États-Unis. La route de l'Amérique passe par la Pologne pour les Bleus, match face à l'Ukraine. 20h45, les matchs n'ont évidemment pas lieu sur le territoire ukrainien. Elle porte les couleurs de l'équipe de France féminine de football. Grâce Gueyoro, c'est l'une de nos meilleures joueuses. Elle quitte le Paris Saint-Germain pour rejoindre la nouvelle équipe de Londres, les London City Lions, avec un transfert record à la clé pour une joueuse française. 1 400 000 euros, troisième transfert le plus cher de l'histoire du foot féminin. Bonjour Julien Froment. Qu'est-ce que ça veut dire que comme les garçons, le foot féminin anglais a beaucoup d'argent ?
Oui, et l'Angleterre, tout simplement, est devenue un modèle sur et en dehors des terrains. Sur le terrain, tout d'abord, les Anglaises ont remporté le dernier Euro en Suisse. Les clubs, avec Arsenal, par exemple, qui a décroché la Ligue des Champions la saison passée, et plus globalement, ce championnat outre-Manche qui s'est développé de manière exponentielle depuis 2017, avec bien sûr le soutien des sections masculines, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Chelsea, des marques fortes qui permettent aux féminines aussi de jouer la plupart de leurs matchs dans le stade des garçons, avec des affluences qui suivent. L'exemple d'Arsenal, l'an passé, 35 000 spectateurs par match en moyenne. Et puis la fédération anglaise qui a travaillé pour développer le produit, qu'il soit tout simplement bankable auprès des sponsors et des médias. La Sky et la BBC, par exemple, dépensent par saison 77 millions d'euros en droits TV pour diffuser les matchs du championnat féminin en France. C'est 15 fois moins. Voilà pourquoi, tout simplement, grâce Gueyoro, hein, vous l'avez dit, 103 sélections en équipe de France, une des figures du foot joué par les femmes en France, eh bien, accepte de rejoindre un promu, Londres, qui
ne jouera pas la Coupe d'Europe.
Non, qui ne jouera pas la Coupe d'Europe, mais qui est détenue par une personne qu'on connaît très bien en France, qui s'appelle Michel Kang, et qui est la propriétaire de l'Olympique Lyonnais.
Voilà, c'est elle qui a sauvé l'Olympique Lyonnais de la relégation en Ligue 2. On sait tout sur Grâce Gueyoro et ce transfert record. Grâce à vous, merci Julien Froment. 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Sébastien Léas. Puis à 13h30, la protection des océans avec l'écrivain Olivier Poivre d'Arvor, ambassadeur pour les océans et les pôles. Les Nations Unies doivent adopter le traité sur la haute mer négocié à Nice. Il faut l'adopter dans le mois qui vient. 01 45 24 7000 pour vos questions. Rejoignez-nous. 13h45, la fin de notre feuilleton. Toujours à Bordeaux, 4 ans après les effondrements rue de la Roussel. 13h25, c'est la France et c'est une chanson. Virginie Troussier et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Virginie, vous vous demandez s'il faut vraiment trouver nos bateaux de caméra.
Actuellement, 7 IMOCA, ces bateaux qui ont fait le Vendée Globe, disputent l'Ocean Race, un tour d'Europe placé sous l'œil constant des caméras. Alors nous allons nous interroger sur ce que cette mise en image change pour les marins comme pour ceux qui les regardent depuis la Terre.
Et avec vous Frédéric, un humoriste.
Édouard Deloignon qui est en ce moment en tournée avec son seul en scène Grandira plus tard. Et avec lui c'est un morceau des Libertines qu'on écoutera. La voix et l'énergie de Pete Doherty. Et l'alcool, et la drogue, beaucoup
trop,
de drogue,
beaucoup trop.
C'est très mal, mais tout ça, ça plaisait bien à Édouard Deloignon quand il était adolescent.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure. 13h31, le temps de votre après-midi.
La météo, avec les cafés Malongo, torréfacteur engagé depuis 30 ans dans le commerce équitable. Les petits producteurs font les grands cafés sur malongo.com.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
C'est le retour du soleil et des éclaircies.
Ouais, après la journée d'hier qui a été particulièrement orageuse, une tendance à l'accalmie se dessine à partir d'aujourd'hui. Cet après-midi se passera donc sous les belles éclaircies au sud de la Loire jusqu'aux Pyrénées et de Rhône-Alpes à la Côte d'Azur et la Corse. Le ciel sera bien dégagé d'ailleurs de la Charente-Maritime aux plaines du sud-ouest ainsi qu'autour de la Méditerranée. Alors les éclaircies seront parfois un peu plus timides entre la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France jusqu'au bassin parisien, au Grand Est et à la Franche-Comté. Et puis quelques averses pourront quand même s'attarder cet après-midi entre la Picardie et l'Alsace. Encore sur le Jura. Une hausse des températures est attendue pour ce week-end. Samedi et dimanche vont d'ailleurs prendre des saveurs estivales. Pour cet après-midi, prévoyez 19 à 26 degrés en général, avec 22 degrés pour Paris, 23 à Lyon et Lille, 24 à Bordeaux, mais 24 à 30 degrés autour de la Méditerranée. Et puis demain, le début de journée sera un peu frais, mais les maximales vont gagner 3 à 5 degrés.
Merci Sébastien Léas. Météo France.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Bonjour Olivier Poivre d'Arvor.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, écrivain bien sûr, mais aussi ambassadeur et envoyé spécial du président de la République pour l'océan et les pôles. Vous serez dans quelques jours à New York où va s'ouvrir la semaine prochaine la 80e Assemblée Générale des Nations Unies. Et l'un des enjeux sera de savoir combien de pays vont ratifier le traité sur la haute mer approuvé à Nice au mois de juin. Il en faut au moins 60 pour que ce texte entre en vigueur. On parle ensemble de la protection des océans, de leur réchauffement, de la pêche aussi. 01 45 24 7000 pour vous qui nous écoutez. Si vous voulez être avec nous pour poser vos questions, vous passez également pour vos messages via l'application Radio France. Olivier Poivre d'Arvor, vous nous rappelez d'abord ce qu'est la haute mer, ce territoire si particulier.
Bah, la mer, c'est très simple. D'abord, c'est 71% de la surface du globe. Hein, et en volume, c'est considérable. Et dans ces 71% de la surface du globe, c'est comme une copropriété, il y a trois lots. Il y a le lot de ce qu'on appelle les zones exclusives économiques, c'est ce que chaque pays a comme territoire maritime, hein, donc 200 miles devant lui. Donc ça, il est chez lui, le pays. Et puis il y a les grands fonds marins, qui sont l'objet de tas de débats sur faut-il les exploiter ou pas, parce qu'il y a évidemment beaucoup de
doutes.
Et puis il y a la grande masse de l'océan, c'est-à-dire à peu près 50% de la surface du globe, 50%, la moitié du globe, c'est la haute mer. Et c'est pas gouverné. C'est-à-dire que vous pouvez aller faire ce que vous voulez.
Il n'y a aucune juridiction qui est compétente.
Non, rien. C'est depuis Grotius, qui était un juriste néerlandais au XVIe siècle, c'est la mer est libre. Donc vous pouvez aller faire votre commerce, passer avec vos bateaux, vous pouvez forer, vous pouvez pêcher, faites ce que vous voulez. C'est l'endroit le plus libre au monde. Et on a décidé depuis maintenant quelques années quand même qu'il fallait qu'il y ait quelques règles parce que les ressources halieutiques, parce que les ressources génétiques, parce que c'est pas possible d'avoir un tel Far West. Et donc c'est ça ce traité de la haute mer. C'est un enjeu considérable et complexe dans la situation géopolitique très particulière que nous vivons.
Alors précisément, où en est-on ? Combien de pays ont déjà ratifié ce traité ?
Alors, je crois que j'étais venu en début d'année chez vous, en tout cas à France Inter, et que nous étions à 25 ratifications. Ratification, c'est-à-dire qu'il faut que les parlements votent, et c'est compliqué partout dans le monde.
C'est ça, il ne suffit pas d'une signature ministre ou d'un chef d'État.
Non, il n'y a pas qu'en France que la vie parlementaire est complexe, partout dans le monde.
C'est la démocratie.
C'est très bien comme ça. La veille de la conférence des Nations Unies sur l'océan, donc à Nice, qui s'est tenue, qui est l'espèce de grande COP océan, on était à 32. Après la conférence, ça a été un vrai succès, parce que à la fois le président de la République, ses ministres ont beaucoup bossé, et un peu moi-même aussi, mais quand même les équipes en général, les diplomates sur place. On était à 50, et depuis ce matin, je ne sais pas si c'est le fait de venir à France Inter, on est
sans
55,
doute.
C'est Grenade qui vient de rajouter sa voix, et il manque 5, et on va les avoir, ça je peux le dire, yes, c'est fait, on va les avoir.
Il n'y a plus d'incertitude.
Et écoutez, il y a l'incertitude jusqu'au dernier moment, hein. C'est peut-être un petit peu comme certains rendez-vous du 8 septembre, mais on ne doute plus beaucoup. Non, on aura nos 60 ratifications et donc le traité va pouvoir entrer en vigueur.
Ce traité, il va s'imposer à tous les pays, même à ceux qui ne l'auront pas ratifié ?
Oui, c'est le principe. Alors, Je pense qu'une fois qu'il est mis en, il entre en vigueur, les autres pays arrivent. Donc on va en avoir très vite une centaine. Et alors après, certains pays, par exemple les États-Unis, n'ont jamais ratifié la Convention sur le droit de la mer, mais ils l'appliquent en fait, dans le fond. Et je pense qu'on va avoir beaucoup de pays qui vont suivre. Donc c'est une vraie victoire diplomatique parce que, un, c'est compliqué en ce moment. Il faut reconnaître qu'avec la Russie, les États-Unis, la Chine, quand même des partenaires un peu complexes. Deux, l'océan, ça paraît loin, alors que c'est vraiment un vrai sujet, urgent. Moi, si j'avais à résumer la formule, si j'avais été Sébastien Léas, j'aurais dit pour la météo que la Terre a soif, parce que le réchauffement climatique fait que la Terre a vraiment soif et que l'océan brûle. On est vraiment... Tout le monde a passé un bel été, là, pour ceux qui sont allés au bord des plages, mais l'océan s'est réchauffé de manière dramatique.
Oui, l'océan brûle, il s'est réchauffé en Méditerranée. Les forêts aussi brûlent. Hein, 33 000 hectares de brûlés cet été dans le pays.
On est vraiment... maintenant, les gens ont compris.
Et revenir aux effets de ce traité, qu'est-ce qui va changer une fois que ces 60 pays, vous nous dites, c'est bon, on va les avoir, auront ratifié ce traité? Qu'est-ce qu'on ne pourra plus faire demain, qu'on peut encore faire aujourd'hui?
Alors, on ne pourra plus, par exemple, aller chercher des ressources génétiques, on ne pourra plus avoir d'activité, pour les résumer, commerciale ou industrielle, sans qu'il y ait une étude d'impact environnemental, notamment, je pense, à la pêche, qui est un sujet vraiment important. Et puis, on va tout simplement pouvoir, en effet, faire que tous ces phénomènes de surpêche, de pêche illégale, illicite et non déclarée, les actes de piraterie, il y aura une vraie gouvernance, y compris une forme de sécurité et de surveillance de l'océan, avec un système de drones et l'ensemble, qui va faire qu'on va pouvoir contrôler l'océan comme on contrôle aujourd'hui le reste de la planète.
Je dis n'importe quoi, une entreprise japonaise, américaine, européenne, décide d'aller pêcher en haute mer et en allant contre ce que dit le traité, qu'est-ce qui se passe?
Il y aura donc des aires marines protégées qui vont être mises en place. Et donc, tous ceux qui vont enfreindre la loi universelle seront susceptibles d'amendes, de poursuites.
Qui fait la police?
La police, c'est ce qu'on va construire lors de la première COP. Il y a des COP climat, il y a des COP biodiversité, il y a une première COP, une conférence des parties, qui va se tenir dans un an. Donc à partir du moment où c'est ratifié, dans un an, il y a cette COP qui se tiendra à New York, donc avant la fin 2026, et on va mettre des gendarmes.
Donc on aura le code de la route, et après il nous faudra la police.
Oui, et la police aujourd'hui... C'est pas uniquement des bateaux, c'est pas uniquement des flottes, c'est évidemment l'observation spatiale qui permet de voir où on en est.
Sans police, le code de la route est moins respecté. Donc
pas respecté du tout. Non, il y aura une vraie police.
Au printemps, Donald Trump, vous parliez il y a une minute de l'exploitation des fonds marins, a signé un décret qui autorise l'exploitation minière des fonds marins en haute mer. C'est interdit, ça, d'ores et déjà, aujourd'hui? Il le fait contre les lois internationales?
Oui. Tout à fait. Il y a un organisme qui a été créé il y a maintenant 30 ans, qui s'appelle l'Organisation internationale des fonds marins, l'Association des fonds marins, qui donne des permis d'exploration pour un jour peut-être l'exploitation. Mais l'exploitation, il faut qu'il y ait un code minier pour aller chercher dans les grands fonds marins où se trouvent ce qu'on appelle les nodules polymétalliques, les encroupements cobaltifères, enfin, toutes sortes de terres rares et dont on pourrait avoir besoin aujourd'hui. Et nous sommes Français et maintenant une trentaine de pays à fond contre cette exploitation, qui est un drame. C'est-à-dire qu'on va commencer à détruire tout ce plancher océanique qui est extrêmement précieux. Et donc, on n'a pas le droit de faire ça sans ce code minier. Et Donald Trump a dit qu'il allait le faire. Eh bien, il ne pourra pas le faire parce qu'on va l'en empêcher, non pas physiquement.
On va l'en empêcher.
Oui, parce qu'en fait, c'est, je pense...
Comment on fait pour l'empêcher?
Parce qu'il ne va pas trouver ses comptes, c'est un homme d'affaires avisé. Donc il va découvrir qu'on ne peut pas aller exploiter l'océan comme ça et ne pas perdre beaucoup d'argent. Donc c'est pas rentable aujourd'hui. Hein. Donc ça qui nous rassure. Et donc je suis allé à Kingston, là, donc à l'organisation des fonds marins, cet été pour plaider cette cause-là. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de pays maintenant qui s'y opposent. Mais enfin, le match est difficile.
Il y a aussi des pays qui sont intéressés. Les îles Cook, par exemple, ont signé un partenariat avec les Chinois, avec les Américains en même temps, parce qu'ils ont des minerais rares, manganèse, nickel, cobalt, qui servent à fabriquer, par exemple, des batteries électriques. Et donc, c'est un gros marché. Et eux, ils sont intéressés.
C'est un gros marché, mais il n'est pas rentable aujourd'hui. En fait, ça qui est très rassurant. En fait, c'est ça qui nous permet...
Ça coûte trop cher.
Ça coûte trop cher d'aller chercher dans les grands fonds marins. Et puis, on trouve ces terres rares et tous ces minerais encore à terre. Et donc, l'océan est devenu une bataille. C'est une bataille réelle. À Nice, pour la conférence des océans, on était 64 chefs d'État et de gouvernement. Il y a eu une déclaration finale. Elle a été approuvée par tous les pays, y compris l'Afghanistan ou la Russie. Il y a un pays qui s'est opposé, un seul, celui qui a la plus grande zone exclusive économique, les États-Unis. Alors, c'est toujours ennuyeux de
devoir
se battre.
La Russie a dit oui, les Américains ont dit non.
Oui, voilà où on en est. Donc, ce sont des batailles, mais on les mène et on les gagne en général parce qu'il y a souvent beaucoup d'esbroufs ou provocations. Donc, voilà.
Je parlais de ces minerais rares. L'océan ne peut pas être une ressource dans la transition écologique. Il n'y a pas là une exploration à faire.
Grande ambiguïté, parce que ce qu'on appelle l'économie bleue, alors on dit toujours l'économie bleue durable. C'est quoi l'économie bleue durable? C'est pour 50% des 1600 milliards de dollars que ça rapporte chaque année, pour la moitié, donc pour 1300 milliards, c'est les hydrocarbures, l'exploitation des hydrocarbures. Donc c'est la folie, en fait. La folie, c'est qu'on est en train de trouver offshore du pétrole et du gaz naturel. Il y en a beaucoup, notamment en Arctique, mais partout.
Total a annoncé cette semaine prospecter au large de la République démocratique du Congo.
Oui, parce qu'en effet, ils obtiennent des contrats avec des pays. Et en effet, voilà. Mais le paradoxe,
c'est pas bien ça.
Bah, c'est pas bien parce que quand vous sortez des hydrocarbures, vous faites réchauffer la planète et donc vous tuez l'océan. Donc c'est vraiment se tuer soi-même. C'est le harakiri à long terme, avec quelques profits au passage pour des multinationales. Donc en effet, l'avenir, c'est les énergies renouvelables. C'est les éoliennes. C'est très lent encore. C'était beaucoup d'opposants, etc. Et cette énergie qui est celle aussi du vent, de la houle motrice, elle n'est qu'au début. Je pense que d'ici 10-15 ans, on aura un modèle qui permettra, sinon de basculer complètement des hydrocarbures qui sont dans les océans, à ces modèles-là. Mais c'est possible, oui, d'y arriver, si on le veut. Mais aujourd'hui, par exemple, l'histoire du traité plastique, on a peut-être suivi ça, je pense, cet été.
Ben, ça a été un échec.
Un échec complet. Pourquoi ? Parce que les pays producteurs d'hydrocarbures n'ont aucune envie d'abandonner la production de plastique, qui leur rapporte beaucoup, et du plastique à usage unique, et que nous voulions, une centaine de pays voulaient, contre ces quelques producteurs. Il faut les citer, États-Unis, Chine, Arabie Saoudite ou Brésil, voulaient continuer cette production de plastique qui est dramatique dans l'océan. Il y a 20 millions de tonnes de plastique qui arrivent chaque année à l'océan, et qui deviennent du microplastique à vie.
Mais donc ça veut dire que ces négociations, elles ne servent à rien ?
Non, bah écoutez, la preuve, c'est qu'à Nice, on a réussi quand même sur plusieurs sujets, notamment, il y a un autre traité qui va être avalisé lors de la conférence des Nations Unies, auquel vous faites référence, donc le 23 septembre, c'est l'Organisation mondiale du commerce va enfin mettre un traité contre les subventions qui aident à la pêche illégale, c'est-à-dire des subventions à des armateurs pour construire des grands bateaux, des chalutiers qui vont aller ramasser du poisson de manière abusive et souvent en forme de surpêche. Donc on gagne les combats, mais il est clair aujourd'hui que ça n'est pas des consensus et qu'il faut se battre, mais si on arrive à avoir l'énergie nécessaire, et je pense que la France, pour le coup, est assez moteur sur ce sujet.
Vous parliez à l'instant de l'éolien offshore, Olivier Poivre d'Arvor. Qu'est-ce que vous dites à tous ceux qui disent « mais ça dénature complètement nos paysages et ça change complètement la nature de la mer ». Il ne faut pas installer ces éoliennes et il y a des mouvements de protestation un petit peu partout sur nos côtes.
Moi, j'aime beaucoup Belle-Île où je vais en vacances. Il y a un projet d'éolienne. Alors, je verrai une éolienne en ouvrant ma fenêtre. Et alors ? C'est quand même mieux que d'avoir l'oxyde de carbone qui vous tombe tous les jours sur la tête et qui fait que chaque année, vous avez une augmentation de 0,5 degré de la mer. C'est quand même mieux pour vos enfants d'avoir une éolienne. Vous savez, avec ce raisonnement, les gens n'auraient pas apprécié l'idée d'avoir des poteaux électriques, il n'y aurait pas eu d'électricité. Donc, franchement,
c'est un mal nécessaire.
C'est pas un mal, je veux dire, c'est assez beau une éolienne. Et puis, d'abord, pas toutes les éoliennes sont visibles, beaucoup ne le sont pas. Il y a des pays intelligents comme l'Allemagne et les Pays-Bas qui en ont construit beaucoup. Donc ça doit faire partie de notre paysage. Moi, je pense que c'est mieux d'avoir ça dans l'œil que d'avoir les gaz à effet de serre dans l'ensemble du corps et avec les dégâts absolument considérables que représente la production d'hydrocarbures aujourd'hui. C'est ça le vrai combat sur tous les sujets. C'est arrêtons d'aller chercher le gaz naturel et le pétrole. Ça va être très difficile. C'est 20% du PIB de la Russie en Arctique, donc on va avoir en effet des opposants.
Je voudrais qu'on parle de la pêche. Il nous reste un peu plus d'une minute. On en reparlait tout à l'heure avec Sandy Dauphin. Ces communes françaises, elles sont 8, à avoir retiré le thon en conserve de la cantine en disant, on est alerté par les ONG qui nous disent qu'il y a trop de mercure dans le thon. Alors depuis, les autres autorités ont rappelé que les normes étaient respectées. C'était une communication du ministère de l'Agriculture la semaine dernière. Est-ce que vous mangez du thon en boîte, Olivier Pour
Non, écoutez, depuis que Bloom, j'en mangeais, ou depuis que Bloom, qui est cette organisation très active, avec laquelle on n'est pas toujours d'accord, mais là, vraiment, ils ont fait un travail formidable. Non, je n'en mange plus, parce qu'en effet, je trouve inacceptable qu'on puisse commercialiser dans des marques bien connues, que je ne citerai pas, ce qui était clairement un poison. Donc, je pense que ce travail d'alerte est très important. Il faut qu'il y ait des ONG, c'est très important. C'est elles qui nous alertent sur la surpêche.
Mais il faudrait quoi, les retirer de la vente,
Il faut les retirer de la vente jusqu'à ce que les entreprises nous sortent du thon qui ne soit pas au mercure.
Donc jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'on ait la preuve que ces entreprises fassent l'effort.
Je crois qu'on a assez la preuve, franchement, d'accord. Le travail qui a été fait.
Donc d'ores et déjà, les autorités françaises pourraient retirer cette.
Je suis pas en charge de ces sujets-là.
Non, mais vous les connaissez un petit peu.
Mais je vous donne mon point de vue. En tout cas, moi, personnellement, ces enquêtes m'ont alerté et j'ai arrêté toute consommation. Voilà.
Merci Olivier Poivre d'Arvor d'avoir été avec nous aujourd'hui avant cette échéance extrêmement importante dans les prochaines semaines.
Rendez-vous le 23 septembre.
Aux Nations Unies, à New York, ambassadeur. Pour l'océan et les pôles, 13h46 sur Inter. Une semaine dans la vie d'une rue, on revient à terre. Une rue balafrée, la rue de la Rousselle, dans le centre historique de Bordeaux. Il y a 4 ans, 2 immeubles s'y sont effondrés. Près de 130 personnes ont dû quitter leur logement. Et d'ailleurs, certaines ne sont toujours pas revenues. Mais petit à petit, des plaies commencent à disparaître. Et il sera bientôt l'heure de reconstruire. Nous retrouvons rue de la Rousselle, notre reporter, Laurélie Carive.
Ici, là, on a replanté. Là, ce sont des goras. À côté, je crois que c'est une espèce de bégonia. Là, il y a des tomates. En face, ce sont des topinambours. Ici, on appelle ça la rue Jardin. On n'a pas de terrain, c'est pas grave. On met nos jardinières. On ne demande pas forcément à la ville. On a investi la rue. Alors, je m'appelle Loïc. Je travaille rue de la Rousselle depuis 13 ans. J'ai le sentiment d'être, entre guillemets, un habitant de la rue, même si je ne fais qu'y travailler.
Vous êtes à quoi ? 30-40 mètres de la dent creuse des deux immeubles qui se sont effondrés il y a 4 ans. Ça a représenté quoi pour vous, ce moment-là ?
Ouais, c'était un gros choc. Tout ce qu'on avait construit, là, tout d'un coup, s'effondrait. C'est à la fois l'immeuble qui s'effondrait, mais c'est aussi tous ces liens, tout ce qu'on avait tissé, tout ce qu'on avait construit petit à petit, les petites choses. Ça m'a énormément affecté. J'avais du mal à venir tous les matins dans cette rue. Puis c'est la présence des gravats, c'était assez violent. J'ai pas pu me mettre à la place de ceux qui étaient directement affectés, mais c'était pour la vie de quartier, la vie sociale, et c'était un choc. Cette rue, elle est très fluide, c'est un lieu de passage, etc. Tout d'un coup, là, c'était une rue sans issue. Il y avait un mur.
Tout ça, par cet énorme amas de pierres, d'éboulis, au milieu de la rue, juste à côté de votre lieu de travail.
Voilà. La vie n'a pu reprendre que lorsque déjà les gravats sont partis. Le fait de retrouver cette reconnexion, petit à petit, on a dit, on ne se décourage pas, on reprend les jardinières, on remet du terreau et on replante, et puis on réarrose, et puis on essaie de repositiver, on reconnecte aussi avec nos voisins.
Et aujourd'hui, est-ce que le quartier a commencé à cicatriser ?
Oui, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a déjà des plaies qui se sont un petit peu refermées. Et puis maintenant, l'idée, c'est de... Même s'il y a encore cette cicatrice, il y a toujours cet objectif de dire qu'il faut la soigner totalement et qu'il y ait un nouveau projet.
Donc moi, je suis Thomas Drouf, j'habite en face de cette dent creuse. Et puis, avec les gens du quartier, on a monté une association dont je suis président.
Qu'est-ce qui est prévu pour remplacer les deux immeubles qui se sont effondrés rue de la Rousselle?
On souhaite, nous, riverains de quartier, retrouver cette architecture et cette continuité de façade. Alors, vous imaginez bien que c'est un peu compliqué, on a encore des affaires judiciaires. Il n'empêche qu'on travaille auprès des pouvoirs publics, de la mairie, pour que soit reconstruit un immeuble. Forcément, ce sera un immeuble moderne. Alors, un projet a été dessiné qui réunirait donc les deux anciens immeubles. Ce serait plus qu'une seule copropriété. Alors, pour cela, la mairie s'est engagée à inscrire dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat C'est un dispositif étatique qui permet de venir sur ce genre de situation pour pouvoir reconstruire, mobiliser des financements publics, parce que vous imaginez bien que ça va coûter quand même un peu d'argent tout ça. Et on espère donc l'inscription en 2026. Et donc ça veut dire le temps de récupérer le foncier, le temps de reconstruire. Allez, en construction pour 2028-2030. Alors, outre l'aspect architectural de cette magnifique rue, de cette courbe, elle est unique dans Bordeaux et c'est l'une des plus belles rues de Bordeaux. C'est aussi effacer cette cicatrice qui a meurtri l'ensemble des riverains.
L'Aurélie qui arrive pour ce feuilleton à Bordeaux. Réalisation Stéphane Ronxin. Vous retrouvez les 5 épisodes sur l'application Radio France.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France, le vendredi à 13h50, la France des cimes et des océans avec Virginie Troussier. Aujourd'hui, Virginie, on retrouve les bateaux que l'on a suivis, on s'en souvient, pendant le Vendée Globe l'an dernier. Ils étaient à Nice la semaine dernière, ils sont lancés dans un tour d'Europe en équipage.
En effet, Jérôme, ce Tour d'Europe, c'est l'Ocean Race qui a débuté le 10 août en Allemagne et dont l'arrivée est prévue au Monténégro le 21 septembre. Une course en équipage et avec escale qui valorise le collectif. Ils sont 5 à bord. Il faut savoir qu'en équipage, on pousse le bateau à son maximum. Les skippers qui se relaient ont constamment le pied au plancher. Ensemble, ils vont passer des heures côte à côte dans l'intimité d'un cockpit, à épouser le moindre mouvement de la coque, des nuits tronçonnées par l'écart, recroquevillées contre des parois de carbone dénudées où le sifflement du bateau résonne sous leur peau.
Qu'est-ce qui rend cette course particulière ?
Alors chaque bateau embarque un reporter d'image qui est là uniquement pour capter les moments clés de l'aventure. C'est l'Ocean Race qui a démocratisé cette démarche. Et c'est absolument fascinant d'observer les skippers surveiller la mer, tirer sur les boutes, réfléchir à leur progression, ou réagir parfois aux conditions violentes. On entend comment ça parle, on voit comment ça bouge. J'ai en mémoire une manœuvre délicate et décisive de Franck Hamas et son équipage en 2012 sur l'étape Lisbonne-Lorient par 80 km/h de vent et avec des creux de 8 mètres, une vidéo qui circule encore sur Internet absolument prodigieuse. L'organisation de course a aussi exigé l'installation de caméras partout dans le bateau, branchées 24 heures sur 24 avec un direct prévu chaque jour vers 16h30. Derrière les objectifs, on trouve des têtes bien faites plutôt que des têtes brûlées. Mais dans cette forte proximité, on a l'impression étrange de suivre une télé-réalité, une sorte de boat story.
Quand même, Virginie, je ne veux pas faire mon ringard, mais ce qui a fait la légende de la voile, c'est le mystère.
Et oui, Jérôme, en 1989, durant le premier Vendée Globe, l'organisateur voulait pour les télés que les concurrents jettent des cassettes aux bateaux venus à leur rencontre, mais la majorité des skippers refusa. Et si on remonte à Mouet-Tessier, il prit le départ du Golden Globe en 1968 sans radio, passant outre les réglementations. Il ne voulait pas perdre son atout maître, la paix intérieure. Aujourd'hui, le loup de mer granitique n'existe plus, le marin moderne est connecté, l'époque n'est plus la même et l'image fait désormais partie intégrante de la course comme de nos existences.
Comment est-ce que vous analysez cette surveillance permanente pour les marins et puis pour le public ?
Eh bien, chez certains skippers, cette transparence dérange parfois. Elle peut être qualifiée d'invasive et peut modifier la présence à bord. Côté public, l'écueil serait de se concentrer sur les moments fort. Le temps long qui existe en mer s'efface derrière une quête d'éclat. L'océan devient un décor en streaming plutôt qu'un lieu où les trajectoires se devinent. Le risque est de devenir un spectateur passif, glissant de vidéo en vidéo, sans chercher à tisser un récit sportif. Et puis, cette augmentation croissante de vidéos peut créer l'illusion de l'immersion. On est au plus près, on voit tout, mais paradoxalement, on ne sent plus grand-chose, alors que l'inconnu, lui, enflamme la réflexion et les émotions.
Alors comment saisir au mieux l'essence de cette course ?
Vouloir tout montrer peut enfermer dans une logique de spectacle. La trace de l'expérience semble avoir autant d'importance que l'expérience elle-même, alors que l'essence de la voile, c'est avant tout l'éphémère d'un sillage. Comme souvent, tout est question d'équilibre ou de bungee, pourrais-je dire. Explorant certaines vidéos, car elles révèlent de manière inédite l'intimité d'une stratégie et la beauté des trajectoires, mettons-les en relation avec la cartographie, puis fermons les yeux, laissons les vents sculpter nos propres sensations. Vous le savez, les choses que vous imaginez sont souvent plus belle que la réalité.
Virginie Troussier avec nous chaque vendredi désormais dans ce 13-14 de C'est la France. Ah, c'est une chanson, votre invité aujourd'hui, Frédéric Pommier, est humoriste. Il s'appelle Édouard Deloignon.
Il est actuellement en tournée avec son spectacle Grandira plus tard, qu'il jouera aussi à partir du 20 septembre au Théâtre Le République à Paris. Et avec lui, nous avons parlé d'un morceau du groupe anglais The Libertines, le groupe de rock porté par Pete Doherty.
Il est arrivé dans ma vie, ce groupe, je pense, un moment où j'avais besoin d'exulter, un peu la fin de l'adolescence où on a besoin de sortir, on a besoin de bouger. Même 18, 19 ans, le permis de conduire, la fête, les filles, j'avais ce truc un peu de... d'envie de faire n'importe quoi, mais de façon calme et quand même d'être un peu rock, quoi.
Vous étiez à quel endroit ?
En Normandie, à Rouen. Donc voilà, niveau rock, on est assez calme quand même. À Montville, très précisément, à la campagne normande.
Et c'est un copain qui vous fait découvrir ce groupe ?
Je sais plus du tout. Je pense que le chanteur Pete Doherty fait un peu la une des journaux à l'époque avec ses frasques. Et je me mets à vouloir découvrir un peu ce qu'il fait, parce qu'en fait, ces frasques, moi, me font rire. Cette folie, ce côté, en fait, je m'en fous, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, quand je veux. Moi, je pense que je me suis mis à fumer des cigarettes parce que je voyais ce gars et je trouvais ça super stylé, parce qu'il y avait toute une image un peu dingue. Il y a un truc qui bouillonne, quoi. Et cette musique, en particulier, me donnait envie d'aller dans les rues et de kiffer, quoi.
Est-ce que vous êtes un peu identifié à Pete Doherty à l'époque ?
Évidemment. Bah, évidemment. Je me disais, c'est ça. Je le trouvais classe. Je me disais, c'est un modèle, je trouve ses fringues stylées, je trouve son mode de vie stylé, alors que bon, se mettre des cuites et prendre de la drogue, c'est vraiment pas stylé en vrai. Mais quand t'as 19-20 ans, tu te dis, bah, en fait, c'est ça qu'est-ce qu'il y a. De sortir des codes de la société, de danser en boîte de nuit toute la nuit, se lever à 15h, manger n'importe quoi. Voilà, moi, j'étais un peu perdu ma vie à l'époque, j'étais à la fac de sport, je savais pas trop, je faisais du basket, ça c'était cool. Mais j'étais un peu, écoute, on va sortir tous les soirs, on va kiffer, on va profiter.
Don't Look Back Into the Sun, Frédéric, cette chanson est sortie en 2003.
Une chanson qu'Édouard Deloignon continue d'écouter encore très souvent, en l'occurrence, chaque soir où il est sur scène.
C'est aujourd'hui la musique d'entrée de mon spectacle, parce qu'il y a un truc qui monte petit à petit, il y a ce cri, et après c'est parti, quoi. Il y a un lâcher-prise que moi j'adore, et moi je bouillonne en coulisses, et quand j'entre sur scène, il y a ce cri en même temps, et c'est un petit cri libérateur, quoi.
Alors, Pete Doherty, vous l'avez rencontré ?
Alors ça, c'est fou. Il y a 2 ans, on me contacte pour une émission télé. Voilà, c'est en Normandie, c'est sur France 3 Normandie et aussi en National. Voilà, il y a une émission avec plusieurs Normands. Donc, Pete Doherty vit en Normandie maintenant avec sa femme. Et on me dit, bah voilà, il y aura tel invité, il y aura Pete Doherty, je sais pas si tu connais. Donc là, je me dis, oula, bah alors là, je suis là, il n'y a pas de problème, je serai là, avec grand plaisir. Donc voilà, et je le rencontre. On sent que c'est un gars qui est apaisé par rapport à tout ce qu'il a pris comme drogue. On sent que là, c'est un peu plus calme. Il y a sa femme qui est là, il y a sa petite fille. Et puis, on connecte bien, on rigole bien. Avec mon anglais moyen et son français moyen, on connecte, on rigole. Moi, j'avais arrêté de fumer, mais je me dis, je vais lui demander du feu et je vais fumer une dernière clope. Et ça sera la dernière de ma vie. Bon, aujourd'hui, je bois plus d'alcool, je fume plus. Mais ça a été un petit moment comme ça de vie où je me dis, allez, ma dernière clope sera avec Pete Doherty. Et ça se passe bien. À la fin, je lui dis toute l'admiration que j'ai pour lui, que les Libertines et cette chanson, c'est l'ouverture de mon spectacle. Donc il me remercie, c'est trop cool. Et quelques mois plus tard, sa femme m'invite à l'avant-première du documentaire qu'elle a fait sur lui. Et pareil, on reconnecte pareil, il est trop content de me voir. Et il me dit, écoute, je joue avec les Libertines au 104 à Paris. Viens faire la première partie. Évidemment, quand on est humoriste, on nous dit ne jamais faire une première partie de concert, surtout pas de rock. Et évidemment, je dis oui, parce que je ne peux pas refuser. C'est impossible de refuser cette proposition. Et donc, je me retrouve au 104. J'esquive des bières, c'est n'importe quoi. Je fais quelques blagues, je chauffe un peu le public. Et ça dure peut-être 3 minutes, mais pour moi, c'est un bonheur. Après, je me retrouve sur le côté à regarder le concert avec mon meilleur ami. On est sur le côté. Tout est fou, en fait.
Donc, pendant 3 minutes, vous avez fait la première partie de votre idole.
Ouais, ouais, c'était fou. Je me retrouve en loge avec eux. Enfin, je faisais partie du groupe, quoi. Non, c'était dingue. C'était dingue. Une chouette expérience.
Don't Look Back Into the Sun, de Libertines. C'était donc, Frédéric, le choix de l'humoriste normand Édouard Deloignon.
Édouard Deloignon qui remplit en ce moment les salles en tournée avec son spectacle Grandira plus tard.
Merci Frédéric et à lundi. C'était une semaine rock. Alors du rock pour nos remerciements. À la rédaction en chef cette semaine, Estelle Schmitt, Cécilia Arbona et Lionel Thompson, assistés de Sylvain Lesage, Benjamin Ducy, Antoine Boucher, Nicolas Sabat et Rachid Zourdani. À la technique, Philippe Duclos et Fabrice Desmaz, notre chargé de programme, Camille Poux-Jalaguier. Et je n'oublie pas les standardistes d'Inter.